Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Tsike Chiferao. Cette semaine, Escale s'intéresse à la République démocratique du Congo, la RDC. En marge de la 70e Assemblée Générale, une réunion de haut niveau du mécanisme de suivi en RDC a eu lieu, suivie début octobre du dernier rapport de la MONUSCO présenté par Martin Kobler, chef de la mission. Ce dernier a fait un état des lieux suivi par Saïd Djinnit, le représentant spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, qui ont accepté de répondre à nos questions. Une réunion du mécanisme de suivi régional sur les RDC s'est réunie en marge de la 70e Assemblée Générale. Cette réunion biannuelle a réuni l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine et les pays de la sous-région. Cependant, cette session n'a pas été représentée au plus haut niveau, ce qui démontre un certain manque d'intérêt, comme le constate Saïd Djinnit, représentant spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs.
Nous avons en général cette réunion deux fois par an, une fois à l'occasion de l'Assemblée Générale et une autre fois à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Mais je dois dire que depuis quelques années, nous nous inquiétons de la faible participation des chefs d'État à ces réunions qui sont censées être au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons une très faible participation ici à New York, comme nous avons eu une très faible participation à Addis Ababa. Et donc nous devons évidemment, avec nos partenaires, l'Union africaine en particulier, mais aussi la CIGLR et la SADC, qui sont les garants de l'accord cadre, tirer les leçons de cela. Autant ce mécanisme, me semble-t-il, est un mécanisme qui, dont les États membres perçoivent l'intérêt parce qu'il joue un rôle de catalyseur de l'action régionale. Autant ils ne participent pas au niveau approprié aux réunions et je crois qu'il va falloir en tirer les leçons. Et c'est ce que nous allons faire avec nos partenaires.
Toujours à ce propos, effectivement, le président congolais lui-même, Joseph Kabila, n'était pas présent. Comment expliquez-vous, en fait, le manque de présence de chefs d'État ?
Écoutez, c'est, je crois, une combinaison de facteurs. D'abord, le fait que beaucoup de chefs d'État ne sont pas venus à l'Assemblée générale parce qu'ils ont été retenus dans leur pays en relation avec les situations nationales. C'est le cas du président de la RDC, compte tenu de la situation dans ce pays. Je pense que le président a jugé bon de rester à Kinshasa et de ne pas venir à l'Assemblée générale où il était représenté par son ministre des Affaires étrangères. Et en plus, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de réunions en marge de l'Assemblée générale et qu'évidemment, c'est pas évident que les chefs d'État participent à toutes les réunions. Il y a enfin, sans doute, un manque d'intérêt à la participation personnelle des chefs d'État, même s'ils en voient l'utilité, ils ne voient pas l'utilité de leur présence, vous voyez. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut examiner pour en tirer les leçons, pour voir comment on peut continuer avec cette initiative qui est importante pour la région, encore une fois, pour catalyser les efforts de la région, mais en même temps en tirant la leçon du fait que les chefs d'État ne peuvent pas participer tout le temps à toutes les réunions.
Malgré cette faible présence, des progrès notables ont eu lieu depuis 2013 en RDC, surtout à l'est du pays. Cette partie, éloignée de la capitale Kinshasa, a vu depuis plusieurs années l'émergence de plusieurs groupes armés dont les actions affectent la population civile, notamment les femmes et les enfants. Fin 2013, l'un de ces groupes, le M23, a subi une véritable débâcle grâce à la collaboration de la mission de la MONUSCO et de l'armée régulière congolaise. Martin Kobler, chef de la MONUSCO.
La chute des M23 au mois de novembre-décembre 2013, ça a développé une nouvelle dynamique. Si vous comparez aujourd'hui la situation à l'est de la RDC, à Goma, avec un nouveau aéroport, avec les vols commerciaux, avec une ville d'1 million d'habitants vibrants qui était dominée au mois d'août 2013 par les exactions des M23. Même au novembre 2013, la ville était occupée par les M23. Et maintenant, c'est fini. On a libéré Goma, on a libéré aussi les axes, les routes, les M23 sont militairement passés. Maintenant, le problème politique de la réinsertion, ça existe. Mais militairement, ça marche. Mais on a d'autres choses à faire. Le boulot n'est pas encore fini. Les FDLR, les ADF. Alors, on a beaucoup de groupes armés qui restent maintenant, mais je crois que le M23 est l'exemple que nous avons fait avec la brigade d'intervention. Je crois que c'était très, très bien pour le bien-être de la population, mais je néglige pas et j'admets qu'on a des violations des droits de l'homme chaque jour à l'est de la RDC. C'est pourquoi il faut continuer.
Ce calme reste pourtant relatif, puisqu'un autre groupe, les FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, continue de semer le chaos et les autorités congolaises ainsi que la MONUSCO cherchent à les neutraliser. Mais la collaboration entre les deux forces est difficile. À l'heure actuelle, elles ne collaborent plus, comme le reconnaît Martin Kobler.
On a certaines divergences de vues. Dans quel délai est-ce qu'on peut partir du pays, parce qu'il faut avoir des benchmarks, il faut avoir des conditions, des éléments qui sont remplis. Premièrement, la réduction de la menace, parce qu'on ne peut pas, partir avec la force d'un territoire qui est encore menacé par les groupes armés. Deuxième point, c'est la restitution de l'autorité de l'État, parce que l'État doit garantir la sécurité et stabilité pour les citoyennes et citoyens. C'est pourquoi on peut partir seulement si on est sûr que l'État est en position de vraiment garantir la stabilité dans ce pays. Et troisième élément, c'est la situation dans le pays. Maintenant, nous avons un processus électoral et par sa nature, les élections sont divisives. Hein? Ce n'est pas une période d'harmonie. Hein? C'est pourquoi c'est aussi quelque chose qu'il faut observer avant de déterminer le départ de la MONUSCO du pays.
Vous avez mentionné les tensions qui subsistent toujours entre la MONUSCO d'un côté et le gouvernement de l'autre, ce qui fait que les forces de la MONUSCO et les forces gouvernementales ne collaborent plus pour le moment. Que faudrait-il pour que le climat de confiance se réinstalle?
Voilà, il faut avoir un dialogue honnête, parce que j'ai senti dans mes réunions avec les Congolais quotidiennes, mais aussi mensuel avec le leadership, avec le ministre des Affaires étrangères, un climat un peu de méfiance, parce qu'ils ne croient pas que nous voulons quitter le pays. Oui, nous voulons quitter le pays, 100%, parce que la MONUSCO, MONUC à l'époque, est dans le pays 16 ans maintenant, MONUC MONUSCO maintenant, et ce n'est pas normal. Et je comprends le gouvernement, vraiment, je comprends le gouvernement s'ils disent « Alors, nous sommes un pays souverain et nous voulons que la MONUSCO parte. » Je dis oui. Il faut créer la confiance que nos convictions, notre stratégie de départ est honnête, mais liée à des conditions que j'ai énoncées.
Afrique, mon Afrique, écrit Senghor. Afrique malade, mais pas encore mort.
Autre inquiétude, l'atmosphère politique actuelle, alors que les Congolais se rendront aux urnes en 2016 pour élire leur président. Martin Kobler témoigne des tensions qui commencent déjà à apparaître sur le terrain.
Voilà, nous avons un climat un peu chaud à cause d'élections maintenant. Parce que, comme j'ai dit, alors les élections, on a toujours ceux qui sont en pouvoir, qui veulent rester en pouvoir, et ceux qui sont à l'opposition, alors ils veulent gagner le pouvoir. C'est pourquoi c'est un processus tout à fait normal, pas seulement au Congo, aussi en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, partout, on a les problèmes dans les périodes électorales. Mais ce qui me préoccupe, c'est vraiment le climat politique par rapport à l'opposition. Nous disons toujours, il faut donner l'espace à l'opposition, il faut donner l'espace à la société civile de s'exprimer librement aux défenseurs de droits de l'homme. Et nous voyons que l'espace politique est limité maintenant pour l'opposition.
Et que craignez-vous dans ce cas? Que craignez-vous pour l'année prochaine?
Non, je suis confiant. Je suis confiant que si on respecte la Constitution, il faut respecter la Constitution. C'est une demande que nous disons toujours. Pourquoi un pays a une Constitution pour le respecter? Respecter la Constitution qui dit très, très clairement que le président de la République, maintenant, a deux fois, 5 ans, et maintenant, c'est le temps d'un transfert paisible. Ma première préoccupation, c'est vraiment tout le processus électoral. On est très, très impartial ici, hein? Mais on n'est pas neutre parce que les élections doivent se dérouler dans un climat de paix. Ils doivent rester paisibles. Et toutes les autres élections, on l'a vu auparavant, alors on a la violence électorale. C'est pourquoi c'est important de respecter la Constitution, donner l'espace à l'opposition, libre expression, aussi accès aux médias, et d'avoir des élections transparentes et crédibles.
De son côté, le représentant de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit, réitère des propos similaires. Il avoue être un peu inquiet au sujet des élections présidentielles à venir dans la sous-région.
D'abord, malheureusement, il faut l'avouer, autant la démocratie est une priorité. Évidemment, la démocratie est une priorité en Afrique. Il faut absolument poursuivre les efforts en vue de consolider la démocratie, consolider la paix en Afrique, et en Afrique de l'Est, de Grands Lacs en particulier. Autant, c'est des moments assez particuliers, assez difficiles, que ce soit là-bas ou ailleurs en Afrique. Même dans des pays qui ne sortent pas des conflits, la situation des élections divise. Les élections divisent dans tous les pays, y compris en Europe, mais malheureusement, elles divisent de façon particulière dans des pays fragiles où les tensions politiques avant les élections sont très vives. C'est des moments difficiles en particulier et de façon spécifique quand des pays ou des chefs d'État entreprennent des réformes pour changer la Constitution. Évidemment, ça devient très, 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 très délicat. Et vous savez, la position des Nations Unies, se basant sur la position de principe de l'Union africaine, c'est le respect de la charte africaine sur la gouvernance et sur la démocratie, et le respect évidemment des constitutions. Et comme je me rappelle, quelqu'un disait, les constitutions sont faites pour être respectées, évidemment. Mais de toute façon, nous sommes nous. Évidemment, ces élections, d'abord, elles prennent beaucoup d'attention, c'est-à-dire elles font l'objet de beaucoup d'attention par les États. Donc quand il y a une période électorale, les États, les gouvernements particuliers sont très focalisés sur les élections, ce qui les distrait forcément des efforts régionaux, d'abord. Et ensuite, lorsque c'est sensible, lorsque c'est délicat, comme dans la plupart des cas, et vous avez parlé du Burundi, de la RDC, du Congo-Brazzaville, où visiblement il y a des tensions autour de la question de la question du troisième mandat ou de la poursuite du processus électoral. Il y a des tensions vives. Évidemment, ça distrait un peu les gouvernements par rapport à l'impératif de la coopération régionale. Et donc, nous sommes conscients de cela et soucieux de cela. Mais en tant que Nations Unies, nous continuons à travailler avec les instances de la région, l'Union africaine en particulier, la CIGLR, la communauté de l'Afrique de l'Est, pour ensemble assister les États à traverser ces périodes délicates, comme je le disais hier, avec beaucoup de sagesse. Et la sagesse, évidemment, implique qu'on s'en tienne au terme de la Constitution et que quand on veut cheminer, il faut toujours cheminer dans le cadre d'un dialogue et d'un consensus, dans le respect des normes constitutionnelles.
Et c'est avec le représentant de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit, que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine à la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.